Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 34e épisode, épisode numéro 33. Nous sommes le 24 février 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud je m'occupe de notre console, notre interface d'administration et tout ce qui est un peu user interface.
Je suis aussi accompagné de Victor Balu. Bonjour Victor Balu, qui êtes-vous ?
Bonjour, j'apparais. Je suis Victor Balu et chez Clever Cloud, je m'occupe de tout ce qui concerne un peu la data et l'intelligence artificielle.
En gros. Et je suis aussi accompagné de François Démier. Bonjour François Démier, qui êtes-vous ?
Hello. Bonjour, alors moi je suis François Démier et je dessine des petits carrés, des petits ronds et des flèches à la Maïf et je mets des ombres dessous pour que ça, soit des, ça fasse des beaux slides.
C'est une des meilleures intros qu'on ait faites.
C'est clair.
Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton job parce que bon, on est là pour ça, ou est-ce que tu t'en fous et on enchaîne ?
Ouais, non, on peut parler un peu plus. Donc du coup, je suis client un peu Clever de par mon boulot. Je suis pas chez Clever, mais on utilise beaucoup Clever sur ce qu'on fait à la Maïf. Je bosse aussi sur tout ce qui est rénovation de l'espace perso mobile Maïf pour bientôt. J'ai contribué pas mal à tout ce qui est l'initiative open source à la Maïf, c'est-à-dire de cette espèce de changement de mindset où la DSI peut devenir éditeur de ses propres logiciels et pourquoi pas du coup les ouvrir pour que d'autres les utilisent. C'était un truc un peu innovant il y a 3-4 ans quand on s'est lancé. Maintenant on se rend compte que beaucoup de boîtes essaye de s'orienter vers ça pour toutes les vertus que ça apporte dans le processus de création et de développement. Mais du coup, je pense que quand on a commencé en 2016, on était un peu en avance sur les autres. Et du coup, ça nous a permis de faire pas mal de choses dont on va parler un peu aujourd'hui, notamment Autorushi, Chapache, Mélusine, tous ces trucs-là.
Petit jeu de cartes derrière lequel tu étais planqué tout à l'heure.
Ah, c'était pas le jeu de cartes, c'est un sachet de thé, vois-tu. Malheureusement, le jeu de cartes, j'en ai pas sous les mains, mais on pourra le mettre en lien dans le truc. C'est Maïf GitHub.io, allez voir sur le github.com/Maïf. Sinon, vous avez un petit jeu de cartes de tous les principes qu'on essaye de mettre en œuvre dans nos initiatives numériques. Et il y a plein de catégories, la place de l'humain dans le truc, mais il y a aussi les choix techniques, tout ce qu'il faut essayer de mettre en œuvre quand on commence quelque chose de nouveau qui doit être moderne et orienté sur le multicanal et le numérique.
C'est votre stock de thé que vous vouliez filer en conférence cette année.
Ouais, c'est
plus,
ça.
Du coup, non.
Du coup, bah, j'en ai un stock chez moi. Ça fait un an que je bois du thé Maïf, tu sais.
Moi, je retiens en termes de goodies, c'était pas mal, hein, nous qui cherchions un peu à nous renouveler là.
Ben, je t'avoue que nous, la dernière politique, là, c'est qu'on fera plus du tout jamais de goodies en termes de. Surtout pas de goodies plastiques et trucs comme ça.
Ouais.
C'est une vraie direction, mais c'est un choix au niveau entreprise, pas au niveau juste nous sur les salons informatiques. On ne fera plus de goodies Maïf en fait. Mais on a encore quelques trucs, quelques reliquats.
Et est-ce que vous avez des reliquats de base SQL et de base NoSQL ?
Ouais, je pense qu'on a plus de, on a des reliquats de base SQL, je pense que essentiellement de base Oracle ou choses comme ça. À une époque, même pour un tout petit produit, on faisait une base Oracle par principe. Du coup, on a pas mal de reliquats. On a même des reliquats Mongo, on a des reliquats, je pense qu'on doit avoir des technos même que j'ignore moi-même l'existence.
Ouais, ce qui m'intéresse, c'est le reliquat Mongo, puisque tu nous proposes un lien magnifique de The Olog Onion.
Ouais, alors du coup, j'ai vu ce lien sur Twitter par Cowboy Caramel. Moi, je connais pas. Je crois que c'est une connaissance de Quentin, il me semble.
Frédéric Alix.
Ouais, je le connais pas. Voilà, en tant que tel, mais ce lien m'a beaucoup fait rire. C'est l'histoire d'un. Alors, c'est un espèce de Gorafi de l'informatique, le site.
Ouais.
Et là, c'est l'histoire d'un gars qui est en dépression et qui s'est noyé dans l'alcool en fait parce qu'il a découvert que toutes les complexités qu'il avait à gérer des bases NoSQL depuis 10 ans avec un cluster Mongo improbable, eh bien en fait, il avait juste à acheter une base Postgre pour 5 balles par mois, et puis il aurait pu faire tout ça et ça aurait marché. Donc je trouve ça assez drôle le lien.
Ouais, je suis d'accord, l'article est bien rédigé, puis ça
montre
bien le danger du silver bullet et jusqu'où ça peut entraîner des communautés et des gens quand tu as un outil pas adapté qui monte en hype et ensuite on y va et en fait...
C'est ça, et du coup on pense qu'on peut tout faire dans Mongo alors que c'est Mongo marche pour un besoin précis, mais la plupart des choses ça marche dans un Postgre quoi, et ça marche mieux.
Ouais, faut rendons à César ce qui appartient à César. Postgre ne supportait pas JSONB quand
oui,
Mongo est
parti, hein,
donc évidemment c'est arrivé plus tard.
Mais c'est
nous, on est directement, excuse-moi Hubert, on est directement, enfin je suis directement dans le cas sur ce que je fais en ce moment à la manif en fait, où on est Postgre, on met du JSON dans du Postgre, ça marche super bien.
Non, j'allais juste dire, c'est un super compte Twitter. Enfin, moi je vous le conseille de les suivre. Alors je sais pas comment ça se prononce, The Holonion, Holonion. Ça vient du fait que le Gorafi américain c'est The Onion, je crois. Et ouais. Là, dans les derniers, il y en a un qui est un peu lié, c'est un hacker hack une startup, réécrit tout le backend complexe avec Postgre et des tâches cron et force le CEO à virer 40% des devs et des DevOps. Et il y en a une autre, c'est le département de la santé américain reconnaît les tâches et les build webpack comme hazardous jobs et demande aux gens de suivre une thérapie. Enfin, tu vois, c'est ce genre de trucs. Et voilà, je trouve que c'est assez fun.
Et puis même le je crois que c'est le README du site là où le je sais plus comment on appelle ça, qui explique que le site a été créé en 69 avant Kubernetes. Il y a plein de petites blagues comme ça qui sont assez drôles.
Yes, j'ai une question. Qui joue aux jeux vidéo ici présentement, enfin, présentement.
Ouais, un peu.
Qui est un gamer?
Starcraft.
Tu lèves pas la main, mais je sais que des fois tu joues.
Bah en fait, je peux pas. J'attends mon Shadow PC depuis 6 mois là. Et voilà. Bon, tu peux parler en Shadow PC, toi. Hein.
Ouais. Bref. C'est pas grave, j'ai téléchargé un jeu magnifique auquel on peut jouer sous Linux et on va en parler juste après cet article fantastique qui est en fait un papier de recherche sur the Royal Society Publishing. .org, qui est une étude qui dit que jouer aux jeux vidéo serait corrélé positivement au bien-être. Alors l'étude est assez cool parce que ça te fait un état des lieux des études qui ont déjà été faites avant. Et souvent c'est oh là là, le jeu vidéo ça rend les gens violents, regardez Columbine, regardez toutes ces histoires glauques de gens qui prennent des guns et qui tirent sur d'autres gens, c'est probablement parce qu'ils jouent au jeu vidéo. Vous pouvez remplacer jeu vidéo par jeu de rôle ou par toute autre activité dite de jeunes.
Regardez des mangas japonais dans le club Dorothée aussi.
Voilà, c'était le cinéma avant, il y a toujours eu ça.
Voilà, regardez Ken le survivant, des choses comme ça. Et...
Je sais pas les refs, mais bon, allez-y, continuez.
C'est pas grave. C'est Ken le survivant, Club Dorothée, manga, tout ça.
C'est ma manière à moi de vous dire que vous êtes vieux.
Ouais. En fait, il y avait eu vraiment une campagne médiatique pour dire que les mangas du c'était dans les années 80, en fait, que les mangas du Club Dorothée rendaient les enfants violents. Et il y avait eu les mêmes trucs avec le cinéma, au début du cinéma, en fait, où ça aliénait le cerveau, donc ça allait corrompre les gens et tout. Je trouve à chaque fois qu'il y a un nouveau divertissement, un nouveau type...
Oui, puis on l'a eu avec genre Call of Duty et tout ça. Là.
Voilà. Et je pense avec la VR, ça va faire pareil. Quand on aura des vrais jeux VR, ça pourrit le cerveau. Enfin, je pense qu'on aura des trucs à chaque fois qu'il y a un nouveau truc. Quoi.
Et l'étude montre bien que la plupart des études existantes ou qui ont été faites dans le passé ont été faites globalement sur ce biais-là et on cherchait plus à essayer de comprendre si ça rendait les gens violents plutôt que de savoir bêtement les gens étaient... content de jouer, si c'était quelque chose qu'il faisait pour se sentir mieux, quelle est la démarche dans laquelle il se plaçait pour jouer, en particulier en termes de timing aussi, parce qu'il parle de gens qui sombrent dans le jeu pendant des jours et des jours et des jours. Est-ce que tu peux être un casual gamer? Est-ce que jouer une heure, ça te fait du bien, etc., etc. Et en fait, cette étude est vachement cool parce qu'elle replace un peu le contexte de manière un peu plus neutre sur ce que devrait être une étude sur le jeu vidéo ou sur l'usage du jeu vidéo. Et du coup, l'a fait et montre qu'effectivement, il y a une corrélation entre le bien-être et jouer au jeu vidéo.
Parce que je ne l'ai pas encore lu, moi. Comment ils définissent le bien-être ou comment ils ont mesuré une sorte de...
Je ne saurais pas te dire, je n'ai pas lu le détail. L'étude est longue, j'ai lu l'intro et la conclusion.
Okay.
C'est mal.
Non, moi j'ai pas lu plus que ça non plus. Donc.
Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'était vraiment toute la partie au début où ils expliquent un peu l'état des lieux de la recherche dans ce domaine-là. Et tu dis, putain, c'est quand même bien triste ce qui a été fait avant et l'angle sur lequel c'était fait avant. Et sur le fait qu'ils l'ont réanglé.
Mais je trouve, tu vois, il y a une espèce de rafraîchissement des cerveaux à faire là-dessus. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est le divertissement, je sais pas comment dire. Qui est le plus utilisé dans le monde entier, en fait.
Enfin, tu vois, aujourd'hui, en temps de Covid
En temps de Covid, déjà, encore plus, mais même au niveau chiffre d'affaires dans le domaine des divertissements, ça fait plus de thunes que le cinéma, ça fait plus... C'est vraiment devant tout. Et je trouve que qu'on ne soit pas à jour à ce point-là sur le jeu vidéo et l'usage. Tous les gamins y jouent aujourd'hui. Toi, il y a encore Brigitte Macron l'autre jour qui partait en guerre parce que Fortnite c'était mal et ça corrompait les gamins, quoi. Ouais. Toi, mais les gamins sont pas plus cons qu'il y a 20 ans parce qu'ils jouent à Fortnite, même si moi j'aime pas Fortnite, toi, c'est pas le sujet.
Non.
Mais toi, je trouve ça tellement. Comment ça se fait que par génération comme ça, on n'arrive pas à se mettre au niveau de la génération d'après? Je trouve ça. C'est un cycle, c'est toujours pareil, toi. Et je trouve ça fou, en fait, qu'une génération n'arrive pas à comprendre, ne veuille pas chercher à comprendre celle d'après, en fait.
Ouais, je pense qu'il y a une partie qui la comprend, et je pense que la partie que tu cites gère de l'électoralisme, et que c'est vachement plus facile de taper sur un média de jeunes pour gagner des voix chez les gens moins jeunes, et du coup, c'est un cycle.
Ouais.
Mais tu vois, dans ce que tu dis, en plus, c'est. On a quand même la notion. Je pense que c'est quand même de plus en plus admis que le jeu, de manière générale, vidéo, il y a beaucoup plus d'adultes joueurs, quoi. Après, la critique va se faire sur des types de jeux, par exemple Animal Crossing, Fortnite, c'est très très ciblé sur les ados, et donc du coup, c'est peut-être que pour les adultes qui jouent à des jeux un peu plus Saint-Elo, je sais pas.
Ouais,
quoi.
Mais tu vois, ce qui est critiquable pour moi, c'est le modèle qu'ils ont pour faire payer les gamins, tu vois.
Ouais.
En gros, tu multiplies les dépenses de 2 euros au lieu de leur faire acheter un jeu 40, et du coup, sur 2 ans, ils ont claqué 300 euros, quoi. Mais ça c'est critiquable, tu vois, tous les loots, les trucs, les randoms, tu payes un truc, tu sais même pas si tu vas avoir un objet dedans. Ça, c'est d'ailleurs, il y a eu des procès sur les. Ouais. Ça se rapprochait du pari et tout. Ça, c'est critiquable, mais c'est pas le jeu vidéo, tu vois. Il y a tellement de. Je trouve, ils font tellement d'amalgames, tellement de raccourcis, c'est assez dommage dans le débat, quoi.
Ouais. Pour répondre, Hubert, j'ai lu vite fait la partie méthode sur le bien-être, là, dans le truc.
Ouais.
C'est un questionnaire.
Okay.
Régulièrement, ils posent des questions où tu dois t'identifier sur les deux dernières semaines, combien de fois tu as été pas très bien et tout.
Cool. Bah, moi, j'en profite pour suggérer aux gens de jouer à Super Mario 3D Land. Je joue tous les soirs depuis une semaine et quelques, et je vais bien. Non, voilà, petit reco.
Et bien, moi, je joue à Factorio, ce qui est une traduction parfaite pour le lien suivant.
Functorio.
Factorio, et le lien suivant, c'est un article de Bartosz Milewski. Si vous faites de la programmation fonctionnelle et vous vous intéressez à la théorie des catégories en informatique, vous connaissez probablement ce monsieur. Et il a écrit un article sur le jeu vidéo Factorio, qu'il a appelé Functorio. Le Functor est donc un quelque chose défini dans la catégorie des types. Bon, on ne va pas rentrer en détail sur tout ça. Mais ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que du coup, tu vois, je prends ce podcast avec sérieux. J'ai fait beaucoup de recherches et donc j'ai passé ma semaine à faire du Factorio pour savoir de quoi cet article parle et du coup j'ai commencé samedi et Factorio en fait c'est un jeu dans lequel vous êtes crashé sur une planète hostile, vous voulez repartir et il faut vous refaire un vaisseau from scratch avec les ressources qui traînent sur la planète et donc vous allez vous retrouver à additionner des ressources qui vont créer un objet et puis vous allez grâce à ces objets les réadditionner pour créer d'autres objets et donc du coup vous avez des fonctions qui prennent des trucs en entrée et puis qui sortent des choses et puis du coup vous pouvez faire de la composition de fonctions parce que du coup les objets que vous avez eu en sortie de votre fonction, vous pouvez les réutiliser dans d'autres fonctions. Donc là, on peut parler de composition de fonctions. Et il y a plein d'autres choses intéressantes, notamment il y a des tapis roulants pour acheminer les choses. Donc ça peut être vu comme des opérateurs. C'est très bien expliqué par Bartosz Milewski. Donc si vous voulez une intro à la programmation fonctionnelle, entre guillemets pragmatique, jouez à Factorio et ensuite allez lire l'article. La démo est sympa, il y a 4-5 heures de jeu sur cette démo. Jouez à cette démo, lisez l'article et ça vous présentera la programmation fonctionnelle de manière un peu différente que la façon dont les gens le font d'habitude. Et voilà, je vous invite à jeter un œil là-dessus. Je sais pas si vous avez eu le temps de le lire ou si vous avez joué à Factorio.
Non, moi j'ai commencé à le lire et j'ai fait oulala, parce qu'il était un peu tard. Mais ça m'intrigue beaucoup plus que des talks que j'ai pu voir qui m'expliquent qu'une monade c'est un burrito, où là j'ai fait quoi et j'ai jamais rien compris. Et non, ça m'intrigue ton truc là.
Non, c'est une bouteille dans laquelle tu mets de la poire et de l'alcool de poire.
Ah, bon, ok.
Non, ça dépend quelle presse tu regardes effectivement.
Je me souviens de cette presse du coup.
Oui, Philippe Charrière, tu nous entends.
Puis après avoir lu l'article, tu peux aller regarder sur YouTube les mecs qui sont complètement tarés sur Factorio, faire des trucs absolument...
Des trucs de ouf.
De ouf.
Je vais aller voir ça.
Que ce jeu, faut pas trop...
c'est pas genre trop un bac à sable fonctionnel, en fait.
Un peu, ouais.
Ouais. Okay. Tu te fais après des usines géantes, tout est automatisé, c'est hyper satisfaisant.
Si vous aimez les choses... si vous aimez construire des trucs et si vous êtes perfectionniste, ne démarrez pas ce jeu, vous n'en sortirez pas.
Voilà, c'est ça le problème. Surtout que si vous avez beaucoup d'autres trucs à faire importants en ce moment.
Il y a un mode multi, et apparemment dans la version complète, il y a plein de choses rigolotes. Donc,
c'est sûr.
Je sais qu'on a, nous avons quelques Clever Claudiens qui y jouent.
C'est sur Steam ou je sais pas quoi.
Ouais, je crois que c'est
Écoute, je sais pas. Moi, j'ai téléchargé un point d'eb et j'étais agréablement surpris de voir que ça marchait très bien.
Ok.
Tu es sous Debian ?
Je suis sous Pop OS.
Ok.
Tout ça pour dire que c'est pas une surcouche à Ubuntu.
C'est exactement ça. C'est la surcouche par défaut qui est avec System 76. Écoutez, pour avoir fait beaucoup d'autres trucs, notamment du Arch Linux, on peut pas faire autant de trucs que ce que je faisais avant, mais voilà, je suis content, ça marche. Moi, ce qui m'éclate le plus avec Pop OS, c'est vraiment la surcouche de gestionnaire de tiling. Alors, Windows Manager est vraiment très, très, très bien foutu. Dans les dernières versions, donc je vous invite à tester. J'ai évidemment un laptop à côté sur Exerbo, mais qui ne sert à rien.
Ouais.
Car je n'ai pas fini de le configurer. Car je m'y suis mis il y a juste un mois et que quand tu fais ça en dilettante, c'est pas assez. Ouais. Bref.
Je t'avoue que j'ai un Mac moi, pour le boulot, là, et mon plus grand regret, c'est de ne pas être sous Arch.
Je comprends. On en reparlera à la fin de ce podcast quand nous aurons un lien là-dessus. Voilà, si vous n'avez plus rien à dire sur les jeux vidéo, on peut passer à autre chose. Et donc, aucune transition possible
non, là, c'est
pour parler de Chapache. Et je vais laisser François nous dire qu'est-ce que c'est Chapache, d'où ça vient et à quoi ça sert.
Alors ouais, tout à l'heure, je vous parlais vite fait de la Maïf et de l'initiative qu'on avait d'adopter une position d'éditeur de logiciels côté de la DSI et d'y incorporer toutes les vertus de l'open source. Et Chapache, en fait, c'est le dernier bébé de ce truc-là. C'est-à-dire que nous, on a commencé avec à open sourcer notre toolbox microservice, là, Autoroshi, Zanami, tout ça. Et cette initiative côté vraiment IT, elle s'est étendue, en fait, sur la partie data. On a un data lab à la Maïf et ils sont un peu emparés de cette ambition open source là, et du coup ils nous ont sorti d'abord Mailusine, qui est un moteur de routage des mails en fait, qui permet de détecter automatiquement le contenu du mail, c'est au mail parce que on a quand même des spécificités de langage à la Maïf par rapport à notre métier, par rapport à notre historique d'assureurs mutualistes, et donc du coup on avait besoin de notre propre moteur de reconnaissance de contenu un peu. Et derrière ça, le dernier né, c'est Chapache. Chapache, alors c'est dans l'ambition en fait de faire utiliser à des gens d'intelligence artificielle, mais qu'ils comprennent pourquoi l'intelligence artificielle leur propose ça. C'est un truc d'explicabilité en fait. Donc on trouvait ça intéressant au niveau éthique, niveau plein de choses, de pouvoir expliquer. Alors ça peut être à la fois aux conseillers, hein, quand par exemple un moteur d'IA par rapport à au profil du sociétaire, du client ou du prospect propose tel ou tel produit, si le moteur d'IA te propose ça, qui t'explique pourquoi il t'a proposé ça en fait. Alors c'est la vision abstraite que je vous donne, parce que techniquement c'est plus compliqué que ça, mais c'est un peu ça l'idée. Et même pourquoi pas directement, quand imaginez sur un produit à destination du client final, pourquoi pas lui expliquer à un moment donné, écoute, nous on te propose ça parce que on a détecté ça chez toi. je trouve ça peut être intéressant en fait, dans la transparence et dans un souci vraiment de vraiment ça, de la transparence avec son utilisateur final, quoi. Alors après, comme je disais tout à l'heure, avant l'enregistrement, je techniquement je connais pas assez comment ça marche Apache, c'est pas du tout mon domaine, c'est le Data Lab Maïf qui a fait ça, mais je trouve rien que l'ambition super intéressante, et le fait, nous en tant qu'initiateur de l'ambition open source à la Maïf, que d'autres services, tu vois, se soient appropriés cette initiative et qu'elle se répande au sein même de notre entreprise, c'est vachement satisfaisant, quoi.
Tu pour la démarche, tu pourrais qualifier ça d'inner source sans...
Bah, du coup, c'est de l'inner source forcément, parce que mais là on en est même pas trop là, parce que c'est inner source, tu vois, pour moi c'est plus avoir un comportement d'open source dans ma boîte. Là, c'est carrément un truc qu'on a fait à côté, qu'ils ont fait et qu'ils open source, tu vois.
Ouais, vous avez été plus loin que juste,
voilà. À côté de ça, une autre conséquence de cette ambition open source et de cette espèce de pivot au niveau de DSI, de se comporter comme éditeur logiciel et tout, c'est qu'à l'intérieur même de l'entreprise, on a de l'inner sourcing qui est venu naturellement, on n'a pas besoin de... En gros, dans la réutilisation des packages, des librairies, des machins, aujourd'hui, on se rend compte de l'importance d'une librairie, même le design, en fait, toi, les slides, les logos, les trucs, même ça maintenant, ça suit cette démarche-là, en fait. C'est une espèce de librairie de police de caractère, de logos, de trucs qui est partagée et que tout le monde, le côté design system, machin, c'est un truc communautaire maintenant. Et je trouve ça, dans l'organisation, quand t'es 8 dans ta startup, c'est cool, quand t'es des milliers, ce genre de truc devient vachement nécessaire pour être sûr d'avoir un espèce d'avoir l'avantage de la communauté en fait à l'intérieur de ta boîte, quoi. Et nous maintenant il y a même des librairies de composants et tout qui commencent, ça paraît évident en fait quand on fait des applications, toi, à destination d'un gestionnaire Maïf, qu'on utilise les mêmes librairies de composants pour le front, ça paraît évident, mais en soi c'est pas si simple que ça à mettre en place quand c'est des équipes totalement isolées en fait, qui bossent sur chacun des briques. Donc du coup là ça se met en place, et c'est, je pense que ça, le fait quand je parle des vertus d'open source, c'est vraiment ça en fait, à la fois pour s'ouvrir aux autres, mais à la fois pour s'ouvrir entre nous. Et du coup c'est alors je me suis écarté de Chapache, complètement, mais
pas tant que ça, hein, parce que moi ce que j'avais bien aimé dans le sujet, je vais essayer de rattraper du coup, mais ce que j'avais bien aimé dans le sujet, ce que j'ai regardé du coup votre meetup où vous présentiez le produit là, et c'est justement, moi ce que j'ai trouvé très très original, au-delà de l'aspect technique des problèmes que ça veut résoudre en explicabilité, c'est la volonté justement de rendre cet outil accessible non pas juste aux data scientists ou aux data analysts, enfin ceux qui gèrent la donnée, mais aussi sur tout le long de la chaîne de valorisation de la donnée. À la fois les mecs qui vont explorer la donnée, créer des modèles et tout en machine learning, aussi bien alors peut-être pas le conseiller, mais en tout cas le plus près du métier possible, qui va vraiment avoir la possibilité de comprendre, au moins d'avoir une première approximation du résultat, quoi, de la compréhension du résultat. Et cette volonté de transparence, au-delà même d'une volonté d'être auditable en interne pour les ingénieurs qui sont dans le bac, là, je trouve que c'est vachement intéressant, parce que du coup ça, il y a plus d'engagement dans le produit, quoi. Ça
fait valoriser l'engagement. Puis c'est vraiment le côté cool, c'est d'impliquer autant le mec qui utilise ça au final en fait que celui qui a développé. Enfin, toi, au final, le fait de lui expliquer pourquoi on lui dit ça, comme tu dis, je pense qu'il y a plus d'engagement au final, et peut-être que la proposition commerciale dans un échange face à face, je pense que c'est jamais marrant. Toi, de se dire, quand ils ont des objectifs, les gens, faut pas se voiler la face, on leur dit faut que tu vendes du contrat VAM ou du contrat voiture ou du contrat maison machin, et arriver à quelqu'un que faire un rebond commercial sur quelqu'un qui a une situation de sinistre ou quoi, ça peut être compliqué, mais si on arrive à l'expliquer, on te propose ça parce que il y a ça, et que ça peut être aussi un service pour l'utilisateur et pas seulement un rebond commercial bourrin, tu vois. Ça peut, on a aussi des outils comme ça, en fait, qui permettent de trouver. Je trouve que ça te donne les billes pour aborder le sujet commercial qui n'est pas forcément facile à aborder, en fait. Ouais. Juste en étant transparent. Après, ça reste un truc commercial, tu vois, mais je pense qu'on peut le faire plus intelligemment.
Bah, ouais. Bah, pour un peu préciser ce que c'est, Chapache, pour ceux qui ne voient pas trop les problèmes d'explicabilité et tout. En fait, c'est une. Enfin, je pense que c'est intéressant de l'expliquer en deux mots. C'est un problème. C'est une surcouche à deux frameworks actuellement. Ce qui est bien, c'est que c'est modulaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en rajouter, si j'ai bien compris, des frameworks d'explicabilité. Il y a Lime, qui existe actuellement, et Shape, d'où Chapache, ça vient de là, je crois. Et ça permet d'expliquer les variables les plus importantes, en gros, dans une décision quand elle est prise. Et donc, du coup, cet outil, enfin, il y a deux modes, si j'ai bien compris également, un mode d'exploration de la donnée qui est super bien fait, où tu vas pouvoir, enfin, d'exploration de ton modèle, en fait. C'est un peu comme de la data exploration, mais au niveau de ton modèle, et ça, je trouve ça trop, enfin, super bien parce que c'est assez dynamique et tout. Et puis du coup, peu importe où est-ce que c'est ce que je disais juste à l'instant, du coup, c'est ce qu'on disait là. Peu importe que tu sois vraiment proche du métier et que tu vas vouloir faire du business avec cet outil, et ben tu vas pouvoir explorer vraiment d'un point de vue un peu plus macro l'importance de telle ou telle variable dans la décision. Et puis pour cette décision vraiment en particulier, vraiment creuser et analyser pourquoi cette décision a été prise et est-ce qu'elle diffère des autres décisions en général. Après, on reste sur l'explication locale, hein, c'est de l'explicabilité, il n'y a pas de vision globale des deux choses, mais je trouve que c'est assez cool, quoi.
Et ça me rappelle un des premiers podcasts qu'on a fait à deux, Victor. En tout cas, je sais que j'étais dedans et tu étais dedans, où tu traitais des sujets d'éthique et d'explicabilité et du fait que le monde de l'IA bouge et essaye plus qu'avant, peut-être. Mais c'est difficile de...
Après, moi, j'aime bien. Hein. Je fais ma recherche sur
oui, l'interprétabilité. Oui. Et en fait, moi, forcément, je suis très loin de tout ça et j'avais découvert ce sujet que quand tu crées des modèles aussi complexes où tu n'es plus capable de savoir comment tu es arrivé à telle solution, tu crées des problèmes, des questionnements éthiques et remettre de l'accent sur l'explicabilité, c'est même un concept que je ne connaissais pas, que j'avais appris grâce à toi.
Puis c'est amusant parce que c'est un truc qui est... C'est une question qui s'adresse à tout le monde.
Ouais.
Ouais. Mais vraiment, tu vas voir, là, j'ai pas mal... parler encore d'éthique pour rester dans le sujet de Chapache et tout ça, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités actuellement, récemment. Et puis, je trouve que, contrairement à justement au dernier podcast où je trouvais qu'il y avait peut-être un peu les acteurs politiques qui s'appropriaient les sujets, maintenant, même les entreprises s'emparent du sujet pour des raisons... quand on voit la manif qui s'empare du sujet, c'est pas que des questions juridiques, en fait. C'est une question d'engagement maintenant, on dit collaborateur pour être corporate, mais de ses collègues, quoi, dans le produit que tu fais pour qu'il soit vraiment utilisé. De la compréhension aussi, de redonner du sens à ce que tu fais. Tu n'es pas là juste pour faire des chiffres et tu dois faire rapporter de l'argent, hein, comme on le disait tout à l'heure, mais l'algorithme, il ne te dit pas juste comment valoriser le revenu de la maïs, de Clever Code, ou n'importe quoi. Il est aussi là pour t'expliquer pourquoi cette décision est pertinente à ce moment-là, quoi.
Ouais.
Et puis, c'est, comme tu parles d'engagement, de toute façon, c'est une question de comprendre ce qu'on fait et du sens qu'on donne au truc. Si tu dois proposer un objet commercial, peu importe que ça soit de l'assurance comme Aïf ou quoi, mais si tu es dans un échange avec un client et que tu dois proposer quelque chose, d'essayer de lui vendre quelque chose, si tu comprends pas pourquoi, si tu comprends pas, enfin, toi au final tu mets pas de conviction, quoi, ou alors t'es le roi des commerciales à valise, tu vois, et t'es Jean-Claude Convenant, quoi, je trouve que plus tu donnes les billes de pourquoi tu veux conseiller ça, plus tu mets en aisance la personne qui doit vendre le truc, parce que c'est pas forcément des vendeurs à la base, en fait. Enfin, toi, c'est pas des gens qui sortent d'école de commerce ou quoi que ce soit, c'est des conseillers d'assurance, mais on leur demande de vendre, ce qui est compréhensible aussi. Enfin,
l'explicabilité, c'est pas juste un souci d'éthique, c'est aussi un souci métier, en l'occurrence.
Oui. Ouais. Et pour le coup, je parle d'assurance là, mais je pense que c'est, comme tu dis, ça peut toucher plein de trucs. Et nous, au niveau informatique, des fois, enfin, toi, je pense que...
C'est l'intérêt de... Moi, c'est ça que j'aime bien dans Chapache, hein, c'est open source, et en fait, on y branche n'importe quel modèle. Enfin, actuellement, il n'y a que les modèles... alors, je crois que c'est sur du texte, je ne me rappelle plus exactement très bien, mais Là, vous êtes en train de bosser sur d'autres sources de données en entrée. Et puis, surtout, c'est open source, donc on peut en faire ce qu'on veut. Hein. Donc,
c'est tout l'intérêt, tu vois. C'est aujourd'hui ce qu'on a le plus de mal, c'est l'étape d'après, c'est ça. C'est, on sait qu'on a des gens qui utilisent ce qu'on fait en open source. Par contre, on n'a pas encore eu de vraiment contribution majeure sur nos produits depuis l'extérieur, en fait. Moi, à mon sens, c'est l'étape d'après qui nous manque pour valider totalement ce qu'on fait depuis 3-4 ans. C'est ça, c'est d'avoir vraiment un partenaire, j'ai envie de dire, même si c'est pas un partenaire financier ou quoi, c'est juste quelqu'un qui contribue de manière majeure. On a des contributions, tu vois, mais j'ai apporté une feature vraiment majeure sur mon truc par l'extérieur, tu vois. Aujourd'hui, c'est quand même nous qui faisons vivre les produits, c'est pas encore des trucs. Il faut toujours une fondation ou un truc derrière un produit, de toute façon, mais je pense qu'on aura vraiment une grosse satisfaction quand on aura une contribution conséquente.
Et là, on en parlait, je me rappelle qu'on avait déjà eu cette discussion un peu avec Quentin, peut-être dans un précédent podcast, où il expliquait que justement, c'est aussi des problématiques actuellement. Sur le marché où il y avait beaucoup d'entreprises qui utilisaient des outils open source et tout, mais qui rechignaient à investir du temps homme et financier au maintien et à l'évolution du produit. Et au bout d'un moment, il faut juste accepter pour les boîtes de dire ça nous sert, c'est core business pour nous à certains moments, on fait de la thune avec, il faut qu'on accepte de dédier du temps. Nous, par exemple, on publie des trucs sur GitHub, on participe à des projets, à plus tard.
Tu vois, nous, du coup, ça fait partie de la stratégie. On a un responsable stratégie open source à la manif, Chris, et du coup, c'est vraiment un truc sur lequel il insiste, c'est de donner aussi du temps à un développeur ou même, pas forcément développeur, un expert technique, soit un expert. Typiquement, là, on a eu une contribution de la Maïf à Kafka, Kafdrop. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une interface pour lire ce qui se passe dans un Kafka. Enfin, bref. Et du coup, on insiste pour que ce n'est pas que faire nos propres logiciels, la stratégie open source, c'est aussi contribuer à ce qui existe et aussi, qu'un collaborateur Maïf qui veut contribuer à un truc parce qu'on l'utilise, parce qu'il a une évolution à porter qui sert la Maïf, qu'il ait le temps de bien le faire pour pouvoir le pousser au projet mère, en fait. Ouais. Et que ça fasse partie de son temps, c'est pas en plus de son taf, il le fait pas chez lui en rentrant, il le fait dans son taf à la Maïf. Et que le manager comprenne ça et qu'on puisse pas dire à un mec, non, tu fais pas ça, ça te fait perdre 2 heures, t'as pas le droit, quoi.
Surtout qu'il y a tout à y gagner, puisque si c'est intégré dans le produit, après. Ça va être maintenu, quoi.
Ah ouais, et puis même la satisfaction du gars qui a contribué au truc, tu vois. Enfin, on est quand même tous un peu. On aime bien avoir fait un truc qui a contribué et qui est visible, tu vois.
Bah ouais.
Je pense que. Ouais, c'est clair.
Au niveau de reconnaissance perso, c'est quand même cool de laisser à la personne le temps de.
Et je pense qu'on est en train. Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de. Enfin, peut-être que c'est encore un biais, parce que moi, je bosse beaucoup avec des gens qui sont dans cet état d'esprit, mais. J'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus admis qu'on récupère des trucs open source, qu'on participe à la communauté. Alors, les boîtes ont un peu de mal encore, les grosses industries et tout, à s'y mettre, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'on y vient quand même, parce qu'il y a, même dans les entretiens d'embauche et tout, tout le monde a son GitHub. Maintenant, tout le monde va regarder ce que les candidats ont fait. Donc, les gens savent ce que c'est, quoi.
Ah bah de plus en plus ton CV c'est ton GitHub, de plus en plus, mais après le...
Pas le mien, n'allez pas voir.
Je vais vous arrêter tout de suite, les gens n'ont pas tous la possibilité de montrer ce qu'ils font sur GitHub.
Ouais,
j'exagère.
J'allais dire on diverge sur le sujet du...
Voilà.
Ah mais sur ton temps libre tu fais des choses, ok, ça nous intéresse, ça. Qui est hyper toxique et dangereux, mais...
Tout à fait.
Je pense que c'est d'un tout autre sujet dans lequel on pourrait partir très loin, mais...
Voilà, mais on va continuer à parler de trucs toxiques quand même, mais on va quand même passer à la suite.
Transition.
ouais, c'est meilleure transition. Parlons de toxique, parlons d'éthique chez Google. Et ouais, c'est une transition pour Victor Balu.
Ouais, bah du coup, tu vois, Hubert, on parlait de, vu qu'on parlait d'open source, d'explicabilité et d'intelligence artificielle.
Oui.
Bah, je suis resté sur le sujet parce que, en vrai, les premiers sujets qu'on essaye de résoudre avec des problèmes d'explicabilité, tout ça, ça va être notamment des problèmes d'éthique. Et c'est d'actualité, puisque à la fin de l'année, là, il y a Google qui a encore viré une des directrices du département éthique, Margaret Mitchell, et ça fait suite, en février, là, Margaret Mitchell, et ça fait suite à une autre directrice qui était.
On en avait parlé sur l'épisode d'Aviken avec Steven Leroux, c'était l'épisode 25, je crois.
Voilà. Et ça c'était en décembre, donc c'était Timmy Grebu, pardon. Et donc voilà. Et en fait, ça pose beaucoup de questions au-delà du fait que Google Dire des gens comme ça et c'est plutôt le positionnement de l'industrie et de grosses boîtes qui ont autant de données comme Google là. Qu'est-ce qu'ils font avec nos données et comment ils se placent là-dessus. Et alors, en fait, donc là dans le lien que j'ai mis, ils montrent que une des raisons pour lesquelles ils auraient été virés, c'est leur participation à des articles sur sur la mise en évidence de problèmes de biais, de genre, de tout ça dans
ouais, t'es en train de dire que Google a viré des méchants islamo-gauchistes de chez eux.
On a atteint ouais, mais en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire que là, ils sont, en fait, ils ont mis à jour leur système interne de processus de publication où, par exemple, maintenant, pour publier un article, faut que tu passes sur ce genre de sujet, faut que tu passes par une commission de validation. Et ils ont forcé les employés de Google à retirer leur nom de certains articles. Donc déjà au-delà du fait que pour toi en tant qu'employé, ça soit quand même un peu emmerdant, ça te fait chier de pas pouvoir revendiquer un travail. Ça pose quand même des questions sur l'attitude que prend une grosse boîte comme Google, qui est quand même assez hégémonique sur le domaine, face à ces questionnements en fait sur la donnée, comment on se passe sur les données un peu sensibles, notamment parce que de plus en plus là il y a une sorte de course à l'échalote sur la taille des modèles entre GPT-3 qui est sorti par
OpenAI.
OpenAI, BERT par Google et tout ça. Et là, ils ont publié un article. Google, là, ils ont. J'ai dû mettre le lien quelque part. Où ils montrent qu'ils ont atteint des tailles de modèles avec plusieurs milliards d'entrées, enfin des trucs qui sont hyper gros. Et c'est seulement la partie immergée qu'ils ont bien voulu ouvrir et expliquer vaguement techniquement. Les employés de Google expliquent qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus gros. Et en fait, un des articles sur lesquels travaillait
Margaret,
comment elle s'appelle déjà, Margaret, c'était justement un article où elle expliquait que fallait se méfier des modèles super gros, ouais, où on n'avait plus la main sur le biais, qui était de plus en plus difficile à mesurer, sur la qualité même des données, parce qu'en fait, finalement, on pense que par une sorte de loi des grands nombres, on va foutre le plus de trucs, même si c'est crade, on s'en fout, ça va se lisser, etc. Et surtout, c'est plus du tout auditable, d'autant plus que c'est des algos qui sont du coup protégés par le secret industriel ou des choses comme ça, pour la majorité, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, ils ne sont pas auditables, etc., etc. Donc, et en fait, il y a vraiment toute une dynamique d'explicabilité ou voire d'interprétabilité des algorithmes qui vient aussi de qui est en réaction à toute cette course qu'il y a entre les grands acteurs sur faire des modèles obscurs, mais au moins qui sont dits efficaces. Et d'ailleurs ça fait lien avec un autre article que j'ai mis où de Reuters je crois ou non pas de Reuters de
tu parles de celui de Technology Review ou de celui de Medium?
Non, de Forbes. Un autre article de Forbes, je crois, où ils expliquent que des grosses boîtes comme IBM et tout ont dû renoncer à certains modèles parce que, notamment, on avait parlé la dernière fois sur de reconnaissance d'image, tout ça. Ouais. Notamment parce que ils avaient plus la main sur le modèle et puis ils n'arrivaient plus à gérer les biais. Voilà. Donc ça c'est quand même une grosse question. J'ai mis un lien d'une vidéo de Science for All pour ceux qui connaissent où il résume un peu toutes les questions en 7 minutes. Donc si vous avez la flemme de lire les articles, c'est super. sur ce qui se passe chez Google et les questions que ça soulève quoi. Et voilà. Notamment si on commence à y avoir de la censure sur les articles de publication et voilà. Il y a quand même eu un syndicat qui s'est créé fin janvier chez Google.
Après 22 ans d'existence Google,
ouais,
c'est ça hein,
ouais, un truc comme ça, 94. Ouais,
c'est un mouvement que tu commences à voir dans plusieurs pays, le syndicalisme dans la tech.
Avec 98 Google, je sais plus.
Je crois que c'est ça.
T'as On est la tech en France, et puis t'as un mouvement. Alors, J'ai probablement un billet sur mon Twitter aussi, tu commences à avoir des gens qui syndiquent aux US pas mal dans les boîtes tech.
C'est la nouvelle industrie, de toute façon.
Victor, quand tu dis publication, tu parles bien de publication scientifique, de recherche, ouais. Dans des revues indépendantes.
Ouais.
Avec des...
ouais, à relecture et tout. Ouais, voilà. Et pourtant, Google, ils ont publié des gros trucs. Hein, et c'est eux qui ont fait le Word2Vec, c'est eux qui ont fait énorme, qui ont fait BERT, qui ont fait des trucs qui ont énormément fait avancer la recherche. Et ils avaient une politique d'éthique qui était assez développée jusqu'à présent, et ils continuent à avoir ce discours. Hein. C'est vraiment là, c'est expliqué dans l'article de Forbes toujours, je crois, où ils revendiquent toujours le CEO ou même le chef de la data, la recherche en data. Ils continuent à revendiquer le fait qu'il y a de la liberté, que les questions éthiques sont majeures chez Google et tout. Mais en face de ça, ils empêchent les employés de publier sur ouais. Ils ont listé les sujets. Hein. Analyse des sentiments, catégorisation de race, genre, politique, affiliation, affiliation politique, c'est l'anglais, quoi. Etc. Donc voilà, je pense que ça pose question. Et puis, en fait, l'article, voilà, j'ai retrouvé l'article qui a été censuré, c'est un article où il montrait, j'ai mis le lien où, en fait, l'article qui a été censuré par, qui a conduit à la, au départ au licenciement de Timit en décembre. C'est un article où il mettait en évidence les problèmes environnementaux, les coûts, les problèmes d'auditabilité, le problème de la signification aussi qui est donné au résultat des modèles et tout. Donc c'est quand même des vraies questions qui peuvent se poser. Par exemple, quand tu fais des voitures autonomes ou des choses comme ça, le problème de l'auditabilité ou de la décision du modèle, il est quand même assez sensible. Si tu caches tout sous le tapis au profit de la performance, moi, je trouve que ça pose un peu question. D'autant plus qu'il y a plein de chercheurs qui, en interprétabilité, justement, qui montrent au fur et à mesure qu'on arrive à atteindre des niveaux de performance de plus en plus similaires à ceux d'algo non interprétables actuellement. Maintenant. Donc, c'est même plus un argument de la performance, il est de moins en moins présent, en fait.
Ouais.
Voilà. Est-ce que j'ai oublié des trucs ?
C'est triste parce qu'au final, la seule chose qu'on attend de Google, c'est qu'il refasse Google Reader, Inbox et Google Play Music. On n'a pas besoin de tous ces trucs.
En vrai, moi, je suis sur YouTube Music en ce moment et c'est pas si mal. Hein. Franchement, ça s'est amélioré par rapport.
Sans mots.
Enfin, voilà.
Je vous arrête tout de suite avant qu'on dérive sur encore sur un autre truc.
Non, et voilà, mais à ça, et c'est là que c'est intéressant, c'est que on arrive sur. On se rend compte dans tout ça, avec tout ce que je viens de dire, que c'est quand même un sujet qui prend le cœur de la société. Parce que, par exemple, hyper récemment, là, il y a un arrêt de la Cour fédérale Trade Court, je sais pas comment on dit en français, qui est sorti, où il condamne une boîte qui a changé de nom, mais qui s'appelait à l'époque EverAlbum, à supprimer tous ses modèles, toutes les photos et tous les résultats produits par les modèles, parce qu'ils avaient appliqué sur des photos récoltées par les utilisateurs. Ils avaient analysé des photos avec des algos sans prévenir les utilisateurs. Quoi.
Ouais.
Donc, il y a ça. Et pourtant, en face de ça, sous prétexte de la crise sanitaire, donc il y a encore un article là-dessus, t'as la Californie qui vient d'autoriser l'usage d'un algo qui va comparer ta tête que tu prends en selfie avec les photos de tes cartes d'identité et tout ça pour être sûr que c'est bien toi et éviter les fraudes aux aides. Ce qui pose quand même question. Enfin, après, ça dépend dans... Et en fait, sous prétexte sanitaire et tout comme ça, par exemple, ils rentrent dans ce genre de jeu-là, donc voilà.
Ouais.
Donc, tu vois, c'est... Et autre preuve que c'est quand même vraiment... au cœur des enjeux actuels et que toutes ces questions, et c'est pour ça que je comprends pas en fait hyper bien le positionnement de Google, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance des boîtes à se responsabiliser en fait je trouve qu'ils jouent un peu mal là-dessus Google, parce que finalement en face d'eux ils ont des États qui prennent conscience des enjeux et tout, qui vont avoir de plus en plus, ils ont une pression publique pour réguler les trucs. Et par exemple, tu as le Forum économique mondial qui vient de faire tout un article où ils expliquent que oui, en fait, c'est hyper important de s'intéresser à la question parce qu'il faut pas laisser les États décider sans que nous on puisse. Enfin voilà, ils veulent faire un peu du lobbying en disant que c'est aussi un enjeu business d'être capable de faire comprendre, disons, aux décideurs, aux politiciens et tout, ce qui se cache derrière juste, comment ça marche, quoi. Faut qu'il n'y ait pas des lois qui tombent sans qu'il y ait de compréhension de ce que c'est un algorithme et tout ça. Donc c'est, qu'ils disent que pour eux que c'est un enjeu business et ça. Et qu'il faut pas laisser, et voilà. Et en fait, c'était pas Forbes, c'est Fortunes.
Fortune.com.
Voilà. Et quoi d'autre?
Bon, on va mettre tous tes liens dans les show notes.
On va mettre tes 15 000 liens dans les notes après.
C'est pas les 15 000 liens, mais c'est lié, tout ça, c'est des choses qui se répondent. Je trouve, enfin, toi, c'est la preuve que c'est quand même, enfin, je sais pas, après, on peut en parler, mais.
Que c'est un vrai sujet.
Ouais.
C'est un sujet de société. Hein, tu sais, enfin, du coup, là, c'est Google qui incarne le mal en ce moment, parce qu'ils font tout pour ça.
Oui, bah.
Je trouve que c'est un sujet tellement. Tellement touché notre quotidien, plus ça va aller, plus on va rentrer dans les magasins, on va tout. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses, je trouve, on va être scanné en rentrant dans des magasins. On va être. Enfin, tu vois, ça existe déjà plus ou moins, ces trucs-là, mais je trouve que encore une fois, je trouve que le débat politique est pas à la hauteur des enjeux actuels, en fait.
C'est ce qu'il disait un peu
sur ce sujet en particulier, tu veux dire, ou en général?
Bah, sur plein de sujets, dont celui-là. Tu vois, la technologie va plus vite que la politique, quoi. Et en plus, quand on dit que le débat, c'est. Enfin, aujourd'hui, on va pas rentrer là-dessus. J'allais rebondir sur ton islamo-gauchisme. Je trouve que même sur ces questions-là, quand t'entends des politiciens parler Haïti, c'est des enjeux Haïti, tu vois, techniques, technologiques. Et on est à des années-lumière des vrais débats, des vraies questions importantes à se poser. Et ils t'amènent des couches de noir et d'obscurité, en fait, sur un truc qui devrait être clarifié aux gens et expliqué. Enfin, c'est.
C'est ce que je trouvais intéressant dans l'article. Moi, j'ai mis l'article de Fortune là-dessus parce que justement, c'est des mecs, c'est un peu orienté quand même entreprise, business, c'est pas hyper. Enfin, tu vois, c'est quand même le business, ce journal. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Il explique que l'enjeu quand même, c'est de faire comprendre. En fait, on est dans un monde où finalement, comme il y a quelques années, on avait une révolution industrielle où il fallait. Les nouvelles générations allaient vivre avec des nouveaux paradigmes de voyage, de motorisation, tout ça, qui changeait la façon de vivre. Là, on allait vivre avec un paradigme, des nouveaux paradigmes d'intelligence artificielle et tout, qu'il y avait deux enjeux, deux manières de réagir à ça. Et une des manières, c'était aussi de le comprendre, de faire qu'il y ait une culture générale de base sur ce sujet pour que les gens comprennent que comment est nourri un algorithme, ce que ça veut dire qu'un algorithme prenne telle et telle décision. Et c'est en ça que je pense que tous les outils dont Chapache qui permettent d'expliciter un peu tous ces résultats, ça rentre vraiment dans ce débat. Et c'est pour ça que je comprends pas du tout, encore moins Google, parce que en fait dans toutes les boîtes qui parlent de ça, c'est des boîtes qui mettent en avant justement le problème qu'ils ont eu avec ils ont fait de la thune très rapidement avec les pubs au début, mais en fait maintenant ils ont un retour de bâton qui est un peu lourd entre les Cambridge Analytica pour Facebook, les bulles de conspirationnistes avec QAnon et tout ça et la désinformation, et les problèmes de modèles hyper racistes et xénophobes qu'il y a eu avec la reconnaissance d'image chez IBM et Microsoft et Amazon. C'est ce qu'il disait dans le Forum économique mondial, tout, c'est qu'il faut absolument qu'ils se regardent les problèmes en face pour y répondre ensemble, quoi. C'est même eux qui réclament de la régulation pour justement équilibrer la situation et qu'il n'y ait pas des sortes de triches, c'est des gens qui s'en foutent complètement de l'éthique et qui préfère vendre une sorte de fake vérité plutôt que...
Mais tu sais, je trouve que j'ai des fois envie de faire l'amalgame. Alors, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien, et c'est sans doute pas tout à fait juste mon amalgame, mais des fois, quand je vois l'histoire des manufacturiers de tabac, à l'époque, quand on a commencé à découvrir que le tabac était nocif et tout, des gens qui sont arrivés avant la loi, en fait, ils ont commencé à faire du tabac avant qu'on y trouve des risques et qu'on y mette des lois, ils étaient déjà là, et du coup, ils ont pu faire des lobbies comme des connards pour repousser au maximum, pour foutre la confusion dans la science et tout. Et je trouve que les GAFAM, alors peut-être pas tous à la même hauteur, mais ils ont un peu cette posture-là aujourd'hui, en fait. Tu vois, ils sont arrivés avant les lois, Et du coup, ceux qui ont un intérêt industriel à pas trop qu'on sache comment ça va. Enfin, je trouve que c'est Google, hein, j'y ai un peu comme ça. J'ai l'impression que c'est Philippe Morris, quoi. Enfin, c'est pareil, c'est pas. Enfin, je pense que des historiens me contrediraient, mais ce que je veux dire, c'est au niveau. En simplifiant, tu vois. Il y a un peu cette posture, on était là avant la loi, et en fait, on s'en fout de tout, on veut faire en sorte qu'on se fasse le max de thunes, même si on dépasse les bornes, en fait. Tu vois,
jusqu'à ce que ce soit peut-être éventuellement régularisé, mais en attendant, profitons-en.
Ouais, mais même, est-ce qu'on saura régulariser Google ? Est-ce qu'on a les moyens de ça,
hein. Tu vois, là, ils essaient de faire beaucoup d'opacité autour de leur algorithme.
Et tu vois, tu fais plein de recherches qui en gros... comment dire, là où il y a un problème, en fait, on va essayer de trouver, ben tiens, il y a ce problème, il se pose aussi si on fait ça, c'est pour faire la recherche sur ce truc à droite, là, et du coup, on oublie le fond du problème, et du coup, j'ai l'impression que, tu sais, on noie le poisson du truc, ça fait un espèce de confusionnisme dans tout ce qui est, et c'est clair pour personne, et du coup, ben, pendant 50 ans, on vend des clopes et on file des cancers aux gens, quoi. Enfin, je résume et j'amplifie, c'est peut-être pas très bon mon truc, mais
je pense, on le voit bien, hein. Mais en fait, on le voit bien avec Google, hein, qui essaye tout le temps de valoriser son image de boîte cool, jeune, à la pointe, et en fait, elle a eu cette image pendant longtemps, mais tu vois, elle essaie d'étouffer justement les mauvaises ondes qu'il y a autour de tout ça actuellement pour continuer à surfer sur cette vague. Et en même temps, elle fait beaucoup d'obscurantisme autour de ces algos pour pas trop qu'on sache, hein, sous prétexte de secret industriel. Alors que finalement, même la création de modèles, de toute façon, les siens, ils sont tellement puissants et lourds qu'il n'y a pas grand monde qui serait capable, même s'ils ouvraient tout le truc, hein, de les calculer. Voilà, enfin, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein, ils font du lobbying sur.
Indépendamment du modèle, l'accès à toute la donnée, surtout qui permet de faire les modèles, quoi.
Ouais. Bah ouais, carrément. Bah, c'était un peu ce qu'ils disaient, hein, leur article. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, en fait, en interne, jusqu'à présent, ils avaient un service éthique qui était en train plus ou moins de dire ça, de dire attention les mecs, on est en train de faire plein de trucs, c'est super bien, mais faut qu'on soit capable
La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont créé le service éthique après avoir enlevé le don be evil de leur manifesto ?
Je sais pas.
Bref.
Ah, voilà.
On enchaîne avec j'ai intitulé cette série de liens le supercopter sous Linux.
Ouais.
Le supercopter. C'est le petit hélico qui a été utilisé par la NASA quand ils ont fait atterrir Perseverance sur Mars la semaine dernière, ce week-end. Mm-hmm. Et ça tourne sous Linux et tout est open source.
Je trouve ça génial, en fait. C'est comme si c'était un petit Raspberry Pi avec Linux dessus qui fait tourner un hélico qui est sur Mars. Et je trouve ça... Enfin, c'est pas Raspberry Pi, mais au final, c'est un peu ça. Je trouve ça assez génial, la consécration. Quand on est dans l'IT, on est tous au courant que Linux marche bien, que c'est fiable et tout. Quand on n'est pas tant que ça dans l'IT, on a encore tendance à croire que Linux, c'est un truc qu'on peut faire marcher, que dans des conditions, s'il fait beau et machin. Ouais. Tu vois, enfin... Je trouve ça, c'est la consécration du modèle Linux open source, ce truc-là. Sur Mars, on envoyait un machin qui tourne sur Linux. Je trouve ça assez génial.
C'est dans la symbolique. Tu faisais la blague du Raspberry, mais sur le GitHub du projet F-Prime.
C'est pour ça que j'ai parlé de ça.
Effectivement, ils t'expliquent que tu peux déployer leur truc sur un Raspberry.
Et du coup, le F-Prime, c'est le framework qui sert à gérer les capteurs et tout pour bien faire voler le petit avion autonome. Et ce framework, la NASA l'a open sourcé. Enfin, je trouve ça, même la NASA open source les frameworks. Enfin,
mais alors, du coup.
Le monde est magnifique.
Moi, je trouve ça marrant parce que est-ce que tu peux t'en servir pour faire voler ton drone ? Est-ce que la densité de l'air est la même ? Comment tu fais ?
Non, je t'avoue que je sais pas ça.
Il y a beaucoup moins d'air et tout.
Enfin, de l'air, il n'y a pas d'air, mais tu vois. Enfin,
tu sais, il y a de l'air sur Mars. Il y a une atmosphère.
Oui, voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Enfin, bref, non, c'est génial, c'est cool.
Ça manque un peu
de Matt Damon qui te fait la démo sur son Raspberry Pi. I'm gonna science.
Faut aller voir. Ils ont publié des vidéos où ils montrent comment ils ont testé leur truc sous des énormes chambres à vide et tout. Et en fait, tu te rends compte que même les mecs, les génies de la NASA et tout, au début, le truc se prend les murs. Toi-même, après, quand tu vois que tu galères, tu te dis ah putain, c'est cool. On est tous au même niveau en fait.
Ouais.
Mais c'est trop, ouais, je suis d'accord.
Il y a Boston Dynamics qui est devant tout le monde.
Ouais. Enfin, là, ils nous montrent ce qu'ils veulent bien nous montrer. Hein.
Ouais. J'ai rajouté un petit lien pour le LOL Twitter qui est une illustration. Je vous invite à aller voir.
Il y a eu beaucoup de blagues d'ailleurs reprises. Mars est la deuxième planète du système solaire où il y a plus d'ordinateurs sur Linux que sous Windows. C'est une blague qui a beaucoup tourné.
Mais d'ailleurs, la première planète, c'est la nôtre.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Sur le coup, je me suis dit.
On ne sait pas.
Ouais. Enfin, du coup, il n'y a que deux planètes où il y a du Windows et du. Enfin, où il y a du Linux, quoi.
Et donc, en parlant de Linux, autres liens partagés par toi, François. Hardening Linux.
Ouais, alors ça, c'est ce lien. Donc, c'est un copain Skunik, un copain sysadmin qui a partagé ça. Alors, je pense que c'est à la fois très pointu, mais à la fois cool pour tous ceux qui aiment bien monter leur Linux. Ça part du principe que Linux n'est pas un truc secure par défaut. Il y a plein de portes ouvertes si on ne fait pas ce qu'il faut. Et au-delà de dire ce qu'il faut faire, ça touche vraiment tous les domaines de votre système. Ça explique pourquoi il faut le faire, en fait. Et je trouve ça super cool. Ça explique pourquoi, en fait, il prône le mec libre-SSL plutôt qu'OpenSSL. Pourquoi système D, c'est pas terrible au niveau sécurité. Ça va même jusqu'à te dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme paramètre. Tous ceux qui ont monté Linux connaissent ça. Le FSTAB pour monter nos partitions. En fait, il y a des paramètres à mettre au bout de chaque partition sur à quoi ils servent et tout. Et au final, souvent, on fait des copier-coller de ce qu'on trouve sur Internet, enfin, dans mon cas, et tu sais pas trop à quoi ça sert les options que je mets. Et là, du coup, il t'explique pour chaque type, si c'est ton slash boot, si c'est ton slash home, quelle option faut mettre pour être le plus secure possible. Il y a plein de trucs comme ça, enfin, faut vraiment le parcourir. Moi, il y a des choses que je comprends pas dedans, je vais être franc. Il y a des choses, ça dépasse mes compétences de sysadmin. Mais il y a des trucs, je fais, ah tiens, j'ai fait direct, je vais aller sur mon Arch et je vais le mettre, quoi. Enfin, tu vois, je trouve ça, c'est le lien. Et si on aime un peu aller tripatouiller du Linux, c'est assez cool.
Ouais, il y a une grande table des matières.
Il y a quelqu'un, je suis pas d'accord.
Ah ouais?
Il y a plein de trucs cool aussi, hein, mais tu choosing de rat Linux distribution.
Ouais.
Ça commence par m'expliquer que je vais devoir utiliser Muscle parce que la surface d'attaque est réduite. Non, je ne vais pas utiliser Muscle, c'est mort. C'est le Muscle, c'est le rewrite de la glibc qui est utilisé dans Alpine Linux par exemple. Et non, moi j'ai pas ça, c'est pas possible. Ils disent.
Après, ça se challenge sans doute. Ouais. Je t'avoue que j'ai pas tout épluché non plus.
C'est ce qu'ils disent au début. Ils disent prenez une Gentoo, mais bon, Gentoo c'est chiant, donc prenez Void avec Muscle, non plus. À la limite, prenez Exerbo.
Ouais,
c'est rigolo parce qu'ils disent bien qu'ils mettent bien un petit taquet à Debian en disant qu'il faut pas prendre des distribs qui frisent les paquets trop longtemps. Enfin, il y a pas mal de choses suggère que nous on applique chez Clever, que ce soit en termes de hardening, que ce soit en termes de paramètres noyau, que ce soit en termes de réduction de la surface d'attaque. Le système D c'est pas safe, je ne me prononcerai pas là-dessus et je taguerai Marc-Antoine Perrenou qui viendra parler de ça et de leur suggestion d'utiliser sudo.
Alors pour pareil, le coup, j'aime bien système D moi perso, mais je comprends.
Ouais, moi aussi.
Mais après, le...
Ça a été écrit par un vieux sysadmin Debian, tu vois.
Après, je trouve que c'est quand même expliqué. Bon, je dis, il y a toujours des trucs... Enfin, c'est normal, c'est des engagements techniques. Il y a toujours des gens pour... Enfin, c'est des choses qui sont contestables. Mais ça te fait un espèce de...
Il y a plein de trucs, hein.
Ouais, tu lis la table des matières, déjà, t'as un tour d'horizon de ce qu'il faut faire. Je trouve ça assez cool, en fait.
Bah, c'est vrai qu'avoir une sorte de tout en un où on te rappelle un peu déjà comment ça marche, un écosystème Linux et tout ce que ça implique de faire quelque chose avec ça. C'est vrai que c'est pas mal que, alors que d'habitude tu vas juste, à mon niveau, disons, je suis loin de certains mecs de Clever me voyaient faire des trucs, parfois ils seraient fous. Mais bon, en général, moi je comprends pas le problème, je vais sur Google, je récupère un truc Stack Overflow et puis c'est bon, c'est résolu, quoi. Je sais pas trop à quoi servent les flags, tu vois.
On ne juge pas.
Mais là, tu vois, ça va jusqu'à sécuriser ton boot et tout, t'expliquer pourquoi UEFI, pourquoi machin. Enfin, c'est vraiment intéressant. J'ai envie de dire, c'est un peu dans le calepin du sysadmin, quoi. C'est un lien à bookmarker, quoi.
La tristesse, quoi. Sur l'élévation de privilèges, virer Pulse Audio, virer D-Bus, non, peut-être pas, non. Ouais, il y a des trucs, alors...
Ça dépend,
vous pouvez faire du Polkit et Polkit peut gérer ça. Enfin,
après, je pense que c'est pas adapté, tu sais, forcément pour un usage perso au final.
J'allais dire, ça dépend
non,
sur un
y
desktop.
Serveur,
ouais. Mais il y a des trucs à apprendre, quoi.
Oui, complètement. Ouais. Il y a vraiment à boire et à manger. Le paragraphe JVisor, ouais. Ils parlent de VM, ils disent n'utilisez pas VirtualBox, utilisez KVM. Effectivement, si vous pouvez éviter d'utiliser VirtualBox, mais encore une fois, est-ce que c'est un usage serveur ou un usage desktop?
Oui, ouais.
Il y a plein de trucs cool et il y a des trucs qui me font peur.
Ouais, je t'avoue que moi, il y a des choses, j'ai même pas compris de quoi ça parlait, hein, donc je m'engagerai pas là-dessus.
J'ai essayé d'unleash Marc-Antoine dessus, mais bon, on verra.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Peut-être que c'est disponible sur GitHub. Peut-être que je demanderai à Marco de faire des pull requests.
Après, c'est quand même un beau boulot, tu vois, je trouve, de centraliser tout,
ouais,
ça. Le mec a édité ça le jour de Noël, d'ailleurs, je viens de voir, tiens, c'est marrant.
Toutes les descriptions de paramètres, parce que c'est ce que tu dis est très vrai. Souvent, tu as des tutos, tu as des paramètres, et tu dis, mais pourquoi quand je mets ça, ça fait ce que je veux, à quoi, et quel est dans la suite de paramètres que j'ai copié-collé le paramètre qui dit que c'est ça que je veux. Et c'est toujours un peu compliqué de faire la différence et de savoir. Et là, c'est vraiment bien expliqué. Anyway, on va changer complètement de paradigme et de sujet. Et nous allons passer à un projet qui s'appelle Remotion. C'est du React Only et c'est pour faire des vidéos ?
Tout à fait. Donc ouais, Remotion, c'est un projet qui était un peu en tendance la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà. Alors l'idée, c'est que donc c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé avec, du coup je viens d'oublier le nom du produit Adobe, After Effects. Il fait pas mal d'After Effects, et qui voulait en fait créer des vidéos, non pas en faisant clic-clic machin, mais en tapant du React. Alors quand je dis créer des vidéos, c'est pas je vais filmer quelqu'un, mais plus dire je vais enchaîner sur une image tel titre, je vais l'animer, il va apparaître, disparaître, puis je vais agrandir la police ou je ne sais quoi. Et là en fait ce qu'il propose, c'est de faire tout ça avec React. Donc vous allez écrire du JSX pour dire je vais avoir 3 séquences, je vais commencer par un logo qui apparaît, puis un titre, puis le titre va disparaître, ou des trucs dans ce genre-là. Et en fait, alors je voulais jouer avec, j'ai pas eu le temps, et je trouve que le site manque un peu de démo, un petit côté regarder tout ce qu'on peut faire. Il y a quelques screenshots et il y a beaucoup de doc, hein, c'est quand même étoffé, c'est pas juste un petit readme, il y a vraiment un site de doc. Mais voilà. Et du coup, en fait, c'est plus le concept qui m'intrigue, moi. C'est de dire, je vais générer de la vidéo de manière avec du markup, en fait. C'est un concept que je trouve vachement intéressant. J'avais déjà essayé un peu un truc dans ce genre-là pour quand il y avait des conférences. sur le stand Clever Cloud, en général, on diffuse en boucle une vidéo de démo de notre interface d'administration. C'est le genre de vidéo qui est ultra relou à faire parce que il faut filmer plein de petits screen recording de j'utilise telle partie, il faut intercaler tout ça avec des titres, et donc faut dégainer je ne sais quel logiciel d'édition vidéo. Et donc je m'étais amusé à faire un truc où j'ai un script FFmpeg qui va essayer de caler un titre par là, prendre tel petit bout de vidéo, etc. Clairement, c'était hyper... ça piquait de partout et c'était galère. Là, ce qu'a fait cette personne, c'est 4000 levels au-dessus. Alors bon, moi, je ne suis pas ultra fan de tout faire avec React. Particulièrement pour ce genre de choses, je ne sais pas si vous avez vu un peu la syntaxe, mais le JSX a très peu d'intérêt, ça pourrait être juste des objets et du déclaratif avec des objets JavaScript, mais bon, pourquoi pas. Mais vraiment, je retiens ce concept d'aller dire je vais créer ma vidéo avec du markup, ce qui fait que le jour où je veux changer un truc en plein milieu, je change mon code, je peux avoir du diff dans un gestionnaire de version et régénérer ma vidéo hyper facilement. Et c'est ça que je voulais tester. A priori, tu as une sorte d'interface de dev où tu peux visualiser les différentes séquences que tu vas enchaîner, comme dans n'importe quel logiciel de vidéo ou de montage vidéo, etc. Donc c'est assez prometteur. Et Laurent, tu signalais qu'il y avait une drôle de licence. Et j'avoue que je n'avais pas regardé. Attends, je vais la réouvrir.
T'as été voir ?
Ouais. Alors, c'est une Remotion License. Donc, Moi, je trouve que quand un projet a sa propre licence, surtout un projet tout petit comme ça, de une personne, en général, c'est pas que ça pue, mais ça tu fais « ok ». Et donc, il y a une différence suivant si tu es un individu ou une entreprise for profit de moins de 3 salariés ou une non-profit, etc., versus tous les autres. J'ai pas complètement gratté, mais en gros, ouais, voilà, tu peux l'utiliser pour ton usage perso ou un tout petit usage professionnel. C'est un peu ça, Laurent ?
Ouais, c'est intéressant, c'est une autre forme de SSPL, sauf que là, c'est pas un truc serveur, donc tu peux pas vraiment appliquer la SSPL. Ouais. C'est un truc un peu différent. Et du coup, il est en train de se dire, si vous voulez l'utiliser perso, allez-y. Si vous voulez contribuer, c'est cool, allez-y. Par contre, je me réserve le droit, moi seul, d'avoir le droit de faire du business avec ça.
Ouais.
Et puis le free licence copyright 2021, c'est assez étrange. c'est pas si c'est fait exprès ça quand on lit la licence.
Moi j'y connais pas grand chose en licence, donc forcément je viens avec mon petit bagage. Je trouvais ça un peu étrange.
Et mais puis surtout la complexité juridique de rédiger une licence.
Ouais.
Il faut des gens un peu spécialistes quand même.
Enfin, bah ouais.
Du coup sur un petit projet je comprends pas vraiment l'intérêt. Mais bon après.
Ouais, enfin, tu vois, c'est son projet perso à lui et il a envie un jour de pouvoir faire du business avec et ouais. Il se met dans la meilleure position pour.
Et tant mieux, hein, moi je souhaite qu'il trouve des clients et qu'il arrive à faire de l'argent avec ça parce que
tout temps
l'usage est intéressant. Et bon, moi ça tient qu'à moi, mais je le ferai sans JSX. Mais l'usage est vraiment pertinent et dans l'idée où bah, tu as des sites statiques que tu génères avec du Markdown, pourquoi tu générerais pas certaines. Bah, vidéo de démo de d'intro ou de je ne sais quoi avec du markup quoi.
Mais moi j'étais aussi frustré que toi sur le fait de l'absence de vidéo, mais il y en a quelques-unes sur son Twitter et ouais. Je crois qu'il y a une chaîne YouTube aussi où il y a un tutoriel sur YouTube.
Je vais la rajouter dans les show notes.
Franchement j'ai regardé, bon pas grand chose hein, mais ça avait l'air pas mal hein.
Ouais.
Ça avait l'air assez pas mal, enfin c'est bien.
Mais c'est pour revenir sur cette licence, c'est free to use et free to use even commercialement si t'es une petite boîte.
Ouais, c'est ça.
Si t'es tout seul, tu vois, ce qui est pas si mal.
Ouais,
non, mais moi, ce qui me choquait, c'est qu'effectivement, sur un projet de cette taille-là, il soit déjà à se poser ces questions-là et à créer sa propre licence.
Ça l'a peut-être fait marrer de faire ça. Hein.
Peut-être qu'il y en a qui aiment le juridique, hein, ça existe peut-être.
Il y en a plein.
Parce qu'après c'est peut-être le plus simple de créer ta propre licence hein. Du coup moi j'ai dû faire des bosser sur les licences quand on s'est lancé justement sur l'open source et tout.
Ouais.
C'est un boulot de furieux hein.
Ah oui c'est compliqué ouais.
Et du coup Apache, vos projets Maïf ils sont sous quelle licence? Ils ont tous la même?
Je crois que c'est Apache 2
ouais.
Si je dis pas de bêtises alors il y a MIT c'est pas du totalement free pour plein de raisons par rapport à la boîte et tout, mais c'est honnêtement c'est un truc sur lequel on est encore challengé nous par l'audit interne de l'entreprise parce que toi on divulgue quand même des secrets de fabrication
ouais.
Mine de rien. Enfin donc après
faut faire... vous avez un process interne hyper lourd pour publier avant de passer sur GitHub.
Alors nous on veut pas que ça soit lourd justement. L'idée c'est quand c'est des petites contributions sur des projets la personne puisse le faire. On fait confiance au mec qui contribue, tu vois, il y a pas de souci. Par contre quand c'est l'ouverture d'un produit comme Chapache, comme ben là du coup ça il y a des instances de validation avec des chefs hein. C'est normal, enfin toi je pense pas non plus, on peut pas laisser non plus on c'est dans ce genre de truc on engage l'image de marque la Maïf ouais. Tu vois, c'est pas que l'image de marque du développeur, donc ça me semble normal qu'il y ait un encadrement pour à partir du moment que la Maïf va payer de la com là-dessus va mettre en place des éléments quand on fait des meet-up et tout, quand on va à Devox, c'est la Maïf qui paye hein, ce truc. Donc, c'est normal qu'on fasse pas tout ce qu'on veut avec le budget. Donc,
supprimer tous les petits commits un peu pourris.
Alors, ça, par contre, il y a des choses. Mais ouais, ça, par contre, il y a une exigence de. En principe, en fait, au moment où l'open source, on repart d'un commit en cassant tout l'historique. Le moment, toi, à l'ouverture, toi, après, tu gardes tout. Mais il y a des trucs qui checkent, s'il y a des logiciels pour ça, hein, enfin, qui doivent checker s'il n'y a pas un mot de passe qui traîne dans tes vieux commits ou s'il n'y a pas des. Il y a toute une démarche à suivre là-dessus. Ouais.
Un des gros soucis aussi, c'est de te retrouver responsable si quelqu'un contribue du code et que c'est du code qu'il a volé.
Ouais,
et puis même le check que chaque librairie que tu utilises bien une licence compatible avec la tienne et tout. C'est un boulot, franchement, c'est pénible, quoi.
Alors, je rebondis avec un lien qui n'était pas prévu au conducteur, qui est une présentation. Alors, désolé, j'ai plus la personne, mais une présentation du Nantes.js sur les librairies et les licences. Et il a justement partagé plusieurs outils, notamment un de GitHub qui explique un peu, qui va scanner tout votre code et voir la compatibilité des licences. Il a partagé plusieurs outils vraiment intéressants. D'ici la fin de l'épisode, je vous donne le nom de la personne et dans les show notes, on mettra un lien vers le talk.
Mais il y a une fonctionnalité GitHub qui permet de faire ça.
Ouais.
Et il y a aussi des scripts un peu plus... Enfin, pas GitHub, je sais plus qui c'est qui fait ça, mais il y a plusieurs choses qui permettent de scanner le contenu. C'est un peu long d'ailleurs quand tu as des gros projets. Quand tu exécutes le truc, tu en as pour un petit moment. Mais il y a plein de choses qui existent, mais après, c'est qu'en plus de ça, moi, c'est même pas le scan qui te dit, t'as tant de librairies, t'as tes licences. C'est après d'être sûr qu'il n'y en a pas une qui fout en l'air. Enfin, c'est juridiquement, c'est super complexe.
C'est hyper compliqué. C'était un talk de Jean-Michel Leguet, je sais plus, qui est dans l'équipe du Riviera Dev. Et le talk est vraiment bien, c'est assez court. Vous prenez la session Nantes.js, je vais la partager. Et c'est sur la deuxième partie. Voilà.
Cool. Écoute, Hubert, on te laisse enchaîner sur l'autre lien qui est un de tes pet peeves, un de tes sujets favoris en ce moment.
Ouais. Alors je vais vous parler des modules ECMAScript, encore une fois, du concept de bundle et de webperf. Alors, en fait, il y a plein de sujets en ce moment qui bougent, donc je les ai tous regroupés et je ne vais pas rentrer dans les détails. De toute façon, ce n'est pas du tout radiophonique. Mais en gros, il y a deux semaines, on a eu un petit tweet de Surma, donc dans l'équipe d'Evrel qui participe au standard de chez Google à Londres, qui parlait de JS Module Blocks. Donc cette proposition qui est au TC39, le comité de standardisation de JavaScript. Si vous avez déjà créé un worker en JavaScript, vous allez écrire blabla égale new worker, vous êtes obligé de mettre l'URL d'un fichier JavaScript pour créer ce worker. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'un fichier à part du fichier qui a initié le worker. Pour plein de raisons, c'est pas très pratique. Si vous avez jamais essayé, c'est moins évident de savoir pourquoi. Mais du coup, sa proposition, c'est de pouvoir un peu définir le code d'un worker dans le même fichier que celui qui va initialiser le worker. Donc c'est vraiment de dire blablabla, je fais mon code et d'un coup, tiens, voici un bout de code, mais celui-là, tu vas l'exécuter dans un worker à part, donc un thread à part, etc. C'est une proposition assez intéressante sur laquelle travaille Surma, Daniel Ehrenberg, qui est intéressante. Ça rebondit avec d'autres sujets sur lesquels travaille Daniel Ehrenberg, qui est chez Igalia. Un qui s'appelle les modules fragments. Et donc là, l'idée, c'est qu'actuellement, quand vous voulez créer un module ECMAScript, c'est un par fichier, c'est tout, c'est comme ça. Donc vous allez avoir des imports-exports dans votre module, mais vous pouvez avoir un seul module par fichier. Là, l'idée des modules fragments, c'est de dire à l'intérieur d'un fichier, je peux déclarer plusieurs modules en leur donnant un petit identifiant. Par exemple, dans un seul fichier, vous mettez le module foo et le module bar. Et depuis l'extérieur, vous allez dire, je veux importer tel fichier dièse foo. Et donc, vous allez importer vraiment qu'un sous-module qu'il y a dans un fichier. Ça peut adresser en partie le fait que, actuellement, si vous utilisez Webpack, Rollup, Parcel, ESBuild, etc., enfin des bundlers JavaScript, ils ont chacun leur manière de regrouper plein de modules dans un seul fichier et d'essayer de faire que ça marche bien. Il y a plusieurs edge cases dans lesquels ça ne fonctionne pas correctement et ce qui manque, c'est un peu un standard pour regrouper plusieurs modules dans le même fichier. Et donc les modules fragments, c'est une manière de faire ça, c'est une proposition pour faire ça de manière un peu standard. Donc Daniel travaille là-dessus, il y a eu quelques échos positifs de plusieurs équipes qui bossent sur des bundlers, et donc à suivre. Et tous ces sujets-là rebondissent avec deux autres propositions. Les web bundles de chez Google, sur lesquels travaille notamment Yoav Weiss, et un tout nouvelle proposition qui ressemble, qui s'appelle les ressources bundles, sur lequel travaille aussi Daniel Ehrenberg. Alors, si on veut faire hyper simple, on va juste rappeler que avant, on chargeait plein de fichiers différents sur une page web. Vous arrivez sur index HTML, il y a trois CSS qui se chargent en cascade, il y a des JavaScript, des polices, des images, tout ça. Après, on s'est rendu compte que ça, c'était pas performant, donc on a commencé à faire des sprites pour les images, à concaténer le CSS, à faire des bundles JavaScript. En gros, on a essayé de limiter le nombre de requêtes HTTP pour gagner en performance, parce que dès qu'on fait un aller-retour HTTP vers le serveur, c'est long. Avec l'arrivée d'HTTP2, on s'est dit bah, « c'est bon, il n'y a plus besoin de bundler, on peut faire une requête par fichier, tout va bien ». En fait, ce n'est pas aussi simple que ça, et on continue d'avoir des meilleures performances en limitant excessivement le nombre de requêtes, et donc en continuant ces espèces de hacks de faire des concaténations de CSS, des bundles JavaScript, des sprites d'images, etc. À tel point qu'on en est arrivé beaucoup d'entre nous à mettre du CSS des images dans du JS en fait et tout charger d'un coup. Ça a l'avantage de gagner en perf, de faire moins d'aller-retour réseau. Par contre, vous ne pouvez plus mettre dans votre cache et invalider dans votre cache HTTP une partie du module. Donc si vous avez un gros module d'un méga de JavaScript et vous changez une ligne, l'utilisateur doit recharger tout le module pour bénéficier du changement. Donc, ça, c'est dommage. Et j'allais trouver une autre limitation, mais c'est une des principales limitations. Oui, vous avez aussi le fait que si dans votre 1 méga de JavaScript, il y a, un module qui sert à afficher l'icône de l'utilisatrice ou l'utilisateur en haut à droite avec son nom, si ça, c'est un composant et qu'il est dans votre module de 1 méga, tant que le module d'un méga n'est pas téléchargé, parsé et exécuté, votre petit composant qui fait en fait peut-être que 2 kilos, il ne peut pas être chargé en fait, il ne peut pas être affiché dans la page. Et donc, les propositions de modules, de ressources bundles, pardon, et de web bundles sont des travaux en cours pour essayer de mettre plusieurs requêtes HTTP. Plusieurs ressources, on va dire, dans un seul fichier, un web bundle, un resource bundle, le nommage, tout ça, ça, c'est en train de se... C'est vraiment des travaux en cours. Mais de mettre tout ça dans un seul fichier pour standardiser un peu ce que font les bundlers actuellement et d'avoir des systèmes de subsetting et de dire, je veux ce bundle-là, mais le CSS, celui-là, je l'ai déjà et celui-là, je l'ai déjà. Je vous laisse imaginer à quel point ça va être complexe déjà d'inventer la solution qui est en cours, de convaincre les trois grands navigateurs, de convaincre les serveurs de trouver, ou même les fournisseurs de CDN, de trouver des manières simples et automatiques de faire du subsetting, donc d'être capable de dire je te donne ce gros bundle mais j'ai enlevé telle et telle partie que tu as déjà. Donc on est parti pour pas mal d'années avant que ce truc puisse devenir une réalité si jamais ça le devient, mais c'est vraiment des sujets intéressants. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir la FAQ du projet des ressources bundles, d'aller voir pourquoi on a besoin de ça au niveau perf, pourquoi on ne peut pas le faire au niveau HTTP, de creuser tous ces sujets-là. J'en ai un peu discuté avec Daniel et Yoav.
Tu parles de HTTP, c'est HTTP1 ou...
Même HTTP2, en fait. Et Quick, du peu que j'ai compris, ne changera pas de grand-chose au fait qu'on a atteint les limites et que même quand tu as réduit, même quand tu as une seule connexion TCP en HTTP2 pour faire tous tes allers-retours de CSS, JS, images, etc. Avoir un seul gros fichier t'apporte énormément d'avantages, moins d'allers-retours, mais par exemple, tu bénéficies d'une compression qui s'applique sur tout un énorme bundle. Et donc, si dans tous tes JavaScript, tu utilises un code similaire, tu bénéficies. Vous voyez un peu comment fonctionne la compression. Donc, il y a pas mal d'avantages. C'est des sujets assez denses. Et un petit détail aussi intéressant, c'est que donc, ça a commencé un peu avec Google, avec les web bundles, sauf qu'ils ils ont combiné ces travaux-là avec... Je suis en train de rentrer trop dans les détails, mais ils ont combiné ces travaux-là avec le fait que dans un bundle, tu puisses mettre des ressources qui ne viennent pas des mêmes origines. Donc, ils ne viennent pas forcément que de ton site. Et donc, tu pourrais télécharger un bundle avec des CSS de monsite.com, mais aussi avec des CSS de montracker.com. Et donc, ils ont essayé...
JS aussi ?
Oui, n'importe quelle fonte, image, CSS, JS. Et du coup... Alors ça, c'est des travaux qui sont liés à...
un peu peur, là, comme ça.
Ouais, voilà, c'est des travaux qui sont liés à AMP, etc. L'idée étant bien d'avoir une manière de signer pour que si tu charges un JS...
Oui.
Alors, attends.
Si tu charges un JS, nous avons perdu Hubert Sablonnière.
Pardon, j'ai la présentation de Jean-Michel Leguet qui s'est lancée sur mon laptop, donc je ne vous entendais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je disais quoi ? Oui.
Sur la signature...
En fait, je crois que le problème, c'est que ce système de dire on va créer un standard pour faire des bundles de ressources, et pas que JavaScript, donc les web bundles chez Google, a été mélangé avec une proposition pour que ce bundle puisse contenir des ressources de plusieurs origines différentes et du coup qu'il fallait pouvoir les signer, qui est un besoin dans le projet MP entre autres. Ça a fait des levées de boucliers chez Brave. Je ne sais plus si on en avait parlé dans le podcast, parce que quand tu es un content blocker, un adblock ou autre, tu n'as pas envie de télécharger un gros bundle qui contient plein de trackers, et tu as envie dès le départ de pouvoir dire non mais... Moi, avant, je pouvais filtrer les URL, mais maintenant qu'elles sont toutes dans un gros bundle, comment je fais, quoi ? Et particulièrement, comment je fais quand elles ne viennent pas forcément de la même origine ? Et donc, chez Google, en tout cas, Yoav, il bosse essentiellement sur les web bundles et pas tant sur le fait qu'ils soient cross-origine et signés. Et Daniel Ehrenberg, en fait, ses travaux chez Igalia sont financés par IO. Je ne sais jamais comment on le prononce. L'éditeur de... c'est un éditeur de bloqueur de pub, mais j'ai peur de ne pas dire le bon. Je crois que c'est Adblock. Ouais, je crois que c'est celui-là. On vérifiera. Donc, il y a aussi eu des commentaires positifs, ou en tout cas prometteurs, de Brave sur ce qu'il est en train de faire. Voilà. Alors là, je vous ai noyé avec tous ces sujets. Si vous vous intéressez à la web perf ou au module ECMAScript ou à tous ces sujets-là, allez voir les liens que j'ai publiés, les trois propositions, enfin les quatre, on va dire. Et surtout, si ça vous intéresse, faites des commentaires, faites des retours à ces équipes qui essayent de produire ces nouveaux standards pour dire oui, mais est-ce que vous avez pensé à ci, est-ce que vous avez pensé à ça ? Moi, mon cas de figure, ce serait ça. C'est hyper important de contacter ces gens et de leur faire des retours pendant qu'ils sont en train de créer ces standards. Voilà.
Tu viens de tuer Victor.
Disons que c'est quand même très très loin de ce que je fais tous les jours, mais je vois un peu les enjeux, tu vois, conceptuellement.
De concept passé de web développeur.
Non, mais mon passé de mon échec. De moi. Bref, remonte pas le couteau dans la plaie et continuons. Non, mais je trouve ça hyper intéressant, cette volonté de... Enfin, moi, je sais pas, moi, j'ai suivi ça de très très loin, j'ai pas du tout notion de tous ces enjeux et tout, mais je vois bien, en tant qu'usager et en tant que mec qui voit un peu ce qui se passe dans les flux de données, quoi, les contraintes qu'il peut y avoir de performance, et puis le trade-off qu'on doit toujours faire entre beaucoup de requêtes ou une grosse giga-requête, mais du coup, quid des pages mobiles, des trucs comme ça, qui ont besoin de moins de données, ou juste comme ça. Ouais. Et bon, voilà, tout ça, et ça, je trouve ça hyper intéressant de... Mais c'est marrant parce que j'avais l'impression que tu adressais déjà un petit peu le sujet avec ce que, quand tu me parles de tes web components, d'autres trucs, où à chaque fois, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un sujet qui est récurrent, cette histoire de comment on fait pour transmettre beaucoup d'informations et de la post-traiter sans que ce soit trop lourd.
Ouais.
Et que c'est vraiment le truc du moment, quoi.
Bah, c'est aussi le truc du moment parce que dans les sujets sur lesquels je bosse chez Clever, je vous bassine avec ça. Donc forcément, et puis c'est aussi pour ça que j'en parle au podcast. Mais
nous avons un petit effet de bulle.
Voilà.
Un truc que où du coup là on n'a pas du tout d'effet de bulle, c'est ce qu'on n'utilise pas Nextcloud, mais il y a une nouvelle version de Nextcloud qui vient de sortir. Nextcloud, est-ce qu'on peut qualifier ça de groupware ou de je sais plus trop comment le qualifier. En gros, si vous utilisez SharePoint, vous pouvez utiliser Nextcloud à la place. Si vous utilisez Google Docs, vous pouvez utiliser Nextcloud à la place. Ils ont donc une nouvelle version. Les principales changements, nouveautés, grosses améliorations de performance, avec notamment l'arrivée d'un back-end tout neuf écrit en Rust. À la base, Nextcloud, c'est du PHP. Le back-end écrit en Rust, il sert à faire de la synchro entre vos ressources locales via un petit démon que vous avez en local, un peu comme Dropbox et le serveur. Donc ça fait beaucoup moins de charges sur le serveur et le serveur s'en porte beaucoup mieux. Ils ont fait plein d'autres amélioration de perf, ils ont un nouveau whiteboard, donc un whiteboard qu'on peut partager à plusieurs pour collaborer. Ils ont pas mal de nouvelles features. Il y a une vidéo hyper sympa qui montre un peu tout ce qui a été fait. Donc c'est assez cool. C'est vraiment le groupware le plus avancé, open, qu'il y a sur le marché en cours.
Moi, je t'avoue que souvent, je l'ai jamais utilisé et plus ça va, plus je regrette. Je trouve que ça devient sexy quand on voit la vidéo et tout.
Ça ressemble à Yammer, ça m'a fait penser à Yammer tout de suite.
Ouais, non, mais ça devient vraiment complet. Alors après, est-ce que au niveau perf, est-ce que machin, j'en sais rien, j'ai jamais utilisé. À grande échelle, parce que c'est pareil, c'est pour que ce genre de truc soit bon, il faut que ça marche avec 3000 collaborateurs, quoi. Enfin, je trouve que j'ai l'impression que ça devient une alternative vraiment crédible et que je suis de plus en plus curieux de ça. Voilà.
Ouais, c'est la même remarque que je me faisais, hein. Ça devient vraiment joli. Et ça fait quand même un moment qu'on est beaucoup à dire, mais quelle alternative finalement à Google de suite, là? Et il existe ce genre de choses qui est déployable, faudrait qu'on voit si on peut déployer chez Clever facilement, mais franchement, ça. Enfin, moi j'ai envie de tester, quoi.
Moi j'avais. C'est bien le. Avant c'était OnCloud, c'est ça, non? Ou ça n'a rien à voir?
OnCloud, ouais, c'est ça, ouais. C'est un fork d'OnCloud.
Je crois que j'avais testé à cette époque-là, ouais.
Après, OnCloud, il faisait que genre c'était ton Google Drive perso, quoi. Il n'y avait pas tant de choses, non?
Ouais, c'est ça.
Et alors, là, il y a de plus en plus de features. Il y a une espèce de. Je ne sais pas si c'est une marketplace, mais tu peux hyper facilement installer des plugins. Parce que c'est du PHP, donc en gros, tu as juste à dumper des fichiers et pif paf pouf. Et c'est un plugin qui tourne.
Si je veux héberger ça, ils ont une offre. Ça peut être hébergé moi-même.
Ça peut être hébergé sur Clever.
J'allais te demander.
Je dois avoir un gist qui traîne sur comment on le fait sur Clever. J'avais un peu galéré, je ne sais plus pourquoi. Je crois que c'était l'idée même d'avoir un FS Bucket et d'avoir des fichiers PHP qui s'auto-copient comme les plugins WordPress, ça me gavait. Ouais. J'aurais bien aimé un truc un peu plus immutable façon Bedrock pour WordPress, mais j'ai pas creusé, donc ça existe peut-être.
Okay.
Ou juste Composer, en fait. Il faudrait peut-être faire un Nextcloud avec Composer, avec juste les plugins dont on a besoin. Donc voilà, nouvelle version de Nextcloud. On enchaîne avec une nouvelle version de Vite.js fait par Iwan Yu, le mec qui a fait Vue.js, je crois.
Tout à fait. Ouais, alors ça c'est aussi un de mes sujets dada du moment. Il y a plusieurs épisodes où vous parlez de Modern Web et Open Web Component, deux teams qui sont plus ou moins les mêmes, deux projets faits par la même team. Qui produisent un test runner et un serveur de développement, Web Dev Server, que nous, on utilise chez Clever sur nos composants. Et en fait, donc ce Dev Server a été créé un peu avant Vite, et sur la base de « on va arrêter de bundler quand on est en dev, et on va juste servir les modules tels qu'ils sont sur le file system ». Et ça, c'est plutôt cool. Depuis, et plus ou moins en même temps, sont arrivées les différentes versions de Snowpack et la proposition d'Evan Yu qui s'appelle Vite. Donc après avoir choisi un mot français pour son framework, à savoir Vue, que tout le monde aux États-Unis galère à prononcer, maintenant il a choisi le mot Vite, et c'est assez drôle parce qu'il est obligé de mettre la phonétique sur le readme. Et j'ai pas encore beaucoup vu de talk, mais je serais pas étonné que la plupart le prononcent Vite, non? Je sais pas. Comme un invite.
Oui, c'est pas.
En fait, c'est J'en parle parce que la V2 vient de sortir. Alors, c'est fascinant pour un outil dont la 0.1 est sortie en avril 2020, que la 2.0 soit déjà dispo en février 2021, mais bon. Mais donc, c'est essentiellement un serveur de dev, mais pas que. Vous le lancez, vous faites localhost 3000 et vous avez votre projet avec du live reload, avec du hot module replacement, avec de l'auto-bundling de vos dépendances. Enfin, c'est vraiment cool. Alors moi, je ne l'avais jamais testé. Je l'ai testé hier soir. Et je l'ai testé hier soir justement parce que ce qu'on utilise, nous, WebDev Server, on en atteint les limites. Et là, ça allait vite, quoi. Désolé pour la blague, mais c'est vraiment cool et vraiment, vraiment prometteur. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est pas du tout un projet exclusif à la communauté Vue.js, hein, pas du tout. Vous allez pouvoir démarrer votre projet React, votre projet LitElement, je pense qu'il y a du Angular, j'ai pas vérifié, et développer avec cette boucle de rechargement vraiment hyper rapide et pouvoir vraiment coder, voir tout de suite ce qui se passe, les effets de vos changements. Voilà.
Alright, moi je n'utilise pas, donc je n'ai pas d'avis. Je vous propose donc de passer à un autre.
Ça va vite.
Ça va vite. Vite. Ça va vite. Un autre truc, mais que j'ai utilisé, qui s'appelle Autoroshi.
Oui.
Il y a une nouvelle release, il y a des news sur Autoroshi, il se passe plein de choses.
Ouais, alors la release n'est pas encore tout à fait dispo. Ça va pas tarder. En gros, tu as ajouté à Autoroshi le support complet de Kubernetes. Comme je disais, on n'est pas là pour discuter du bien ou du mal que fait Kubernetes à la communauté informatique. L'idée, c'est que c'est une réalité de marché et que nous, c'est un vrai plus sur le produit Autoroshi de pouvoir de s'interfacer et de s'installer, se déployer sur un cluster cube facilement pour gérer l'API management pour manager les appels d'API sur nos différents pods. La complexité de cube a fait que c'est un gros boulot parce que c'est Cube est simple quand tu as trois containers, mais par principe, un orchestrateur, que ça soit Cube ou un autre, par principe, c'est pas simple en fait. Hein. C'est énormément de complexité réseau, complexité les namespaces, les machins, les routes, les. Il y a un gros boulot. Nous, on l'a mis dans Auto version open source parce que déjà, on pense que c'est un vrai besoin. Enfin, comme on dit, hein, c'est une réalité du marché, il y a Cube un peu partout. Et aussi parce que du coup, on l'utilise à la Maïf sur Cube. On a une distrib OpenShift de Cube à la Maïf. On a un gros cluster qui gère pas mal l'environnement pour le build et la prod. Et du coup, on l'utilise nous-mêmes. Et du coup, par notre utilisation, on a dû faire évoluer le produit. Et du coup, on se sert de ça pour augmenter en gros le produit disponible pour tout le monde. Et on pense en plus que c'est un bon truc stratégique dans l'adoption d'Autoroshi, de mettre un standard, de l'adapter à un standard du marché actuel. Derrière, il a rajouté aussi, je crois Mathieu, le support des clusters Postgre pour gérer la base de données d'Autoroshi, pour que ça soit efficace en termes de perf et tout, parce que c'est pas tout à fait... Par défaut, c'est sur du Redis qu'on stocke toute la conf Autoroshi et tous les paramètres. Mais du coup, il a bossé là-dessus. Bientôt, peut-être, on essaiera d'en faire un bundle pour Clever ou d'en faire un bundle sur Azure. C'est des choses qu'on pense. Maintenant, c'est encore du boulot. Mais déjà, on est content d'arriver à cette version-là. C'était facile de le déployer sur Clever, c'était facile de le déployer sur des microservices indépendants. Maintenant, ça sera facile de le déployer aussi sur un cluster cube. Donc, c'est un bon gros palier pour nous, quoi.
Right, faut espérer que dans 5 ans, The Log Onion ne fasse pas le même article, mais à la place d'une HTML avec Kubernetes. Voilà, j'étais obligé de la faire. Ok, bah c'est cool. Je vous propose de nous arrêter ici. Ça fait 1h30 qu'on se cause. Nous allons finir par le choix musical de l'invité.
Ouais, alors du coup, je vais pas mettre Jacques Higelin. Je vais te mettre. J'essaie de trouver une version live d'une chanson que j'adore, qui est Ma petite couturière de Damien Saez. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
Ben, non, mais ça me va bien. Je le rajouterai au montage après. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as envie de mettre ça?
Je mets ça parce que c'est sans doute la chanson que j'ai le plus écoutée dans ma vie. Tout simplement.
Tu as raison.
Tu veux dire que c'est pas la femme d'argent? Pourquoi?
C'est pas là?
Non, laisse tomber. C'est moi. J'ai rien dit.
Okay, excuse-moi, c'est que j'ai pas entendu ce que tu as dit. Mais non, c'est une chanson que je trouve déjà magnifique et ça représente. Il y a tout là-dedans de l'artiste 16 que j'adore. Et du coup, il y a la partie un peu acoustique au départ qui part en rock un peu punk à la fin.
Cool.
Voilà. Et avec un joli texte en plus.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu rock et punk à la Maïf. Mais j'ai peut-être un biais aussi.
Alors moi, pour le coup, j'adore le côté punk, côté rock, mais je peux écouter du rap, je peux écouter du Georges Brassens, du Jacques Brel,
du Jacques Higelin.
Du Jacques Higelin aussi, un peu moins quand même. Mais non, pour le coup, je suis très hétéroclite. Éclectique, voilà. Je pratique l'éclectisme comme les inconnus.
Tout pareil. Merci François d'avoir accepté de venir.
Ben, merci à vous, c'était cool.
Carrément.
C'était bien cool de carrément. T'avoir. On est ravis. On vous dit merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Ciao.
Ciao, salut. À la semaine prochaine.
Ma petite couturière, elle est pas haute couture. Il faut voir quand elle court. Désolé, mon cœur, ma petite couturière, elle connaît les mesures. Mon cœur est perdu. Là dans la fourmilière, des trous dans les...